Bonjour, aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Nouveau projet et pivot. Au programme, les géants du web. Quand 104. Et des opposants opposantes progressistes au tramway de Québec. Vraiment? Bonne écoute.
Les géants du web, un texte de Catherine Dorion, paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet. Qui nous protégera de la voracité des GAFAM? En 2018, je faisais mon premier discours à l'Assemblée nationale en tant que député. J'y parlais de solitude, de manque de temps pour être ensemble, de pression productiviste, de tristesse face à ce que nos gouvernements nous proposent comme seul projet de société, avoir 100 $ de plus dans nos poches. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vision commune, qu'on n'a pas été porté par un désir collectif. Des petits bouts de petits projets ici et là, des luttes séparées, des listes d'épiceries électorales, des débats polarisés, du monde qui ne se reconnaissent plus entre eux et elles. Si s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'une l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction, peut-être que le Québec ne s'aime plus. Peut-être qu'il est dans un rapport à lui-même proche de celui qu'on a quand on est en dépression, cynique et désintéressé. On est dans quoi collectivement en ce moment? C'est quoi le chapitre de notre histoire? On sait qu'il y a eu de grandes luttes sociales, qu'il y a eu des époques joyeuses et libératrices, puis il y a eu des gouvernements de droite, des coupes et des serrages de ceinture, et pendant que le 1% prenait de la bédaine et de l'assurance, l'anxiété montait partout ailleurs. Il y a eu les alarmes qui se sont mises à sonner. La crise du climat, celle du logement, le manque de sens, la santé mentale qui en arrache. Des industriels ont fait mentir des études pour pouvoir continuer à polluer. Des opinionneux opinionneuses grassement payées nous ont dit, année après année, que les services publics à la poubelle, les syndicats à la poubelle, les artistes à la poubelle, l'environnement à la poubelle. Jusqu'à cette chose qui nous est arrivée récemment et qui est en train de nous transformer profondément à notre insu. Cette chose sur laquelle on a complètement perdu le contrôle et qui est en train de foutre en l'air à peu près tout ce qui nous est cher comme humain-humaine. Je parle de ce que Shoshana Zuboff, sociologue et professeur émérite à la Harvard Business School, a appelé le capitalisme de surveillance. L'ouvrage « L'âge du capitalisme de surveillance » 2018, qui résulte de plus de 10 ans de recherche, est aujourd'hui considéré comme une lecture incontournable, à droite comme à gauche, et a été salué partout à travers le monde. Le capitalisme de surveillance est une nouvelle forme de marché qui revendique l'expérience humaine privée comme matière première dont il se sert dans des opérations secrètes d'extraction, de production et de vente. L'économie de la surveillance est devenue l'expression dominante du capitalisme dans l'ère numérique. Elle a pris racine et a prospéré dans les 20 premières années du siècle numérique sans opposition réelle de la part de la loi et des institutions démocratiques. En d'autres mots, il existe un marché, à peu près pas réglementé, où se sont jetées avec passion des compagnies gigantesques attirées par le gain extraordinaire que représente l'accaparement de ce nouvel or noir, notre temps d'attention. Mais ce temps de cerveau disponible qui est happé par nos machines bien plus qu'on le voudrait, dans un monde qui nous y incite, voire nous y oblige de plus en plus, ce n'est pas du temps réellement disponible. Ce temps passé sur nos écrans est volé à autre chose. À la recherche du temps perdu. Il était où ce temps avant? Il appartenait à qui? Ce temps-là appartenait à la liberté. Ce temps-là était libre. Et c'est dans ce temps libre que se crée, se transmet et s'enrichit la culture humaine. C'est dans ce temps libre que naissent la chanson, la danse, les histoires et les confidences. Que prennent place le soin et l'amour qu'on se donne. Quand la souffrance des autres devient la nôtre, quand on est nombreux, nombreuses à supporter plusieurs souffrances, on définit une culture. Une culture de ce qui est bon pour nous et de ce qui ne l'est pas. Une culture de ce qu'on veut sauver, parce que ça nourrit le bonheur de la collectivité, et de ce qu'on veut combattre, parce que ça pourrit le bonheur de la collectivité. Ce temps-là est hacké par les grandes entreprises numériques, sans souci de ce qu'on désire vraiment. Avec l'aide des neurosciences, elles ont développé des applications capables de contourner notre libre arbitre, ça s'appelle la captologie ou le design du comportement, vous sentez-vous dans un roman d'Orwell, et de faire appel à nos pulsions, à nos dépendances, de sorte qu'en demeurant toujours branché, on transmet plus d'informations personnelles. Parce que c'est ça qui fait la pièce, parce que c'est ça le nouveau pétrole. Ou pour ceux et celles qui ont lu Dune, parce que c'est ça l'épice. Qui ne connaît pas des gens qui voudraient consacrer moins de temps à leur machine et qui s'en déclarent incapables? Qui disent que c'est un combat de tous les jours depuis des années? En fait, je devrais y aller à l'envers. Qui connaît quelqu'un, quelqu'une, qui ne veut pas consacrer moins de temps à ces machines? Les grandes théories économiques que nos gouvernements embrassent depuis des décennies sont basées sur l'idée du choix rationnel. Or, il va falloir se le dire, ce n'est pas rationnellement qu'on donne notre temps et nos infos personnelles aux Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, GAFAM, de ce monde, ou à des plateformes comme Netflix. Tôt ou tard, il va falloir se regarder en face comme société et constater humblement que notre temps est exploité par la force psychologique. Vous écoutez « Les géants du web », un texte de Catherine Dorion paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet. Le musée des horreurs du capitalisme numérique. De nombreuses voix s'élèvent pourtant aujourd'hui un peu partout pour nommer l'importance d'accompagner et d'encadrer le développement d'un Internet sécuritaire qui nourrisse l'esprit humain plutôt que de la servir, qui permette d'unir les gens plutôt que de les isoler dans des espaces virtuels addictifs, qui servent la démocratie plutôt que de l'affaiblir. Bref, un Internet qui soit sain plutôt que destructeur pour la société et pour l'individu. On a commencé à se poser ces questions il y a longtemps déjà, quand on a appris que Google enregistre tout ce qu'on tape dans son moteur de recherche, qu'il scanne aussi le contenu de nos messages privés sur Gmail, qu'il consigne nos déplacements, nos allers-retours entre le bureau et la maison, dans quel bar on va et à quelle heure. On a appris que Facebook mémorise nos likes et fait des portraits très détaillés de nos goûts, de ce qui nous déprime et de ce qui nous met de bonne humeur. On a su qu'il n'enregistre pas juste nos actions sur Facebook, mais nous suit et nous épie sur les autres sites qu'on visite. Puis on a appris, avec le lanceur d'alerte Edward Snowden, que nos informations personnelles se ramassent entre les mains des services secrets américains qui peuvent fouiller librement dans cette mer d'informations sans véritable chien de garde capable de protéger la démocratie et les droits de la personne contre leurs abus, malheureusement monnaie courante dans l'histoire. Il y a eu ensuite le scandale de Cambridge Analytica, à qui Facebook a vendu les portraits psychologiques de dizaines de millions d'utilisateurs d'utilisatrices dans le cadre des campagnes électorales de Trump, du Brexit et d'autres. On a ciblé des types de personnalités particulièrement susceptibles d'être influencées et on les a bombardés de contenus politiques hautement personnalisés. Une arme psychologique d'une efficacité redoutable. On a su encore qu'avec Google Street View, ça, ce sont les petites autos de Google qui se promènent dans le monde entier pour donner une vue grandeur nature de chaque raccoin, Google ne fait pas que prendre des photos. Il capte une foule d'informations personnelles, à même nos transmissions Wi-Fi, un vol de données, carrément. Ça a été le scandale WiSpy. Puis, le dernier en lice, les Facebook Files en septembre 2021, où on apprenait, entre autres, que la dépendance à Instagram, si lucrative pour l'entreprise, endommage la santé mentale de millions d'adolescents et surtout d'adolescentes au vu et au su de la compagnie. L'histoire n'est pas prête de s'arrêter et TikTok ne perd rien pour attendre. Ces entreprises peuvent bien nous répéter qu'elles s'affairent à protéger nos données personnelles. La vérité, c'est qu'aucune d'elles n'y a intérêt, parce que les informations qui concernent la vie privée des gens, de leur rythme cardiaque à leurs obsessions secrètes, en passant par ce qu'ils ont acheté à telle heure dans tel magasin, la musique qu'ils écoutent quand ils ressentent telle émotion, tout ça, C'est leur matière première. C'est précisément de ça qu'elles tirent tout leur pouvoir. À moins d'opter pour un suicide institutionnel, il y a bien peu de choses que les GAFAM puissent dire ou faire pour assurer le respect de la vie privée de l'utilisateur-utilisatrice. Quand on entend ça, il faut rire, comme quand on voit les pubs d'éco-blanchiment de l'industrie pétrolière avec une petite musique et un petit vent dans les feuilles d'un arbre au milieu d'une belle forêt. Et attention, ce n'est pas une question de technophobie ou de technophilie. Ça n'a rien à voir. La radioactivité peut guérir des cancers, tout comme elle peut enserrer le monde entier pendant des décennies dans la crainte de la guerre nucléaire. Le problème, ce n'est pas la technologie, c'est le capitalisme. Et comme les grandes puissances coloniales se faisaient autrefois compétition sans qu'aucune autorité contraignante vienne les entraver dans leur course folle pour l'accaparement des ressources naturelles, les grandes puissances numériques se coltaillent aujourd'hui sur les terres de nos cerveaux pour être celles qui possèdent le plus de données sur nous, le plus de possibilités de nous influencer, d'influencer la marche du monde et, par le fait même, de nous sortir de notre libre arbitre et de notre vie sensible, tous, toutes, autant que nous sommes. Le vivre ensemble et la culture. Avec les algorithmes, on a appris que c'est en poussant sur les émotions des gens et sur leurs préjugés qu'on peut le mieux les garder scotchés à leurs écrans. En les poussant au maximum. Ça, c'est l'inverse de l'équilibre, l'inverse de ce que te recommanderait un ou une psy. Tout le monde a déjà ressenti le stress, le mal-être qui surgit sans que l'on comprenne pourquoi, avant de réaliser « Ah, je viens de passer 20 minutes là-dessus à faire je ne sais même pas quoi ». Pression, négativité, comparaison et compétition, clivage, haine. 20 minutes de pensée à qui? Ça a un profond effet sur notre psychologie, mais aussi sur nos relations. Ces heures perdues à tourner en rond dans les labyrinthes de nos notifications, ces heures sont enlevées à ceux et celles qu'on aime. Elles sont enlevées au temps qu'on passerait à être connecté avec soi-même pour mieux se lier avec le monde qui nous entoure. Elles sont enlevées à nos quartiers, aux luttes essentielles qu'on a à mener ensemble pour sortir de la crise climatique et humaine dans laquelle on se trouve. Elles sont enlevées aux soins qu'on porterait peut-être à notre prochaine et qui pourraient faire en sorte que les urgences psychiatriques et les listes d'attente des psychologues ne débordent pas autant. Ces heures disponibles sont enlevées aux enfants, aux adolescents-adolescentes, aux aînés. Elles sont enlevées à la transmission, à la passation, à tout cet héritage que le Québec porte et qui ne se situe nulle part ailleurs que dans le cœur. Bref, elles sont enlevées à nos liens, au territoire commun qu'on appelle culture et qui était jusqu'à récemment épargné par les lois de la propriété privée et des compagnies. À tout ce qui fait qu'on forme, ou pas, une communauté, une société, un peuple, plutôt qu'une suite de petits pixels bien délimités, en petits groupes séparés les uns des autres, une foule d'individus atomisés en train de perdre le savoir-faire d'être ensemble dans une même réalité. Ces heures sont la matière première des GAFAM, mais elles ne leur appartiennent pas. Elles sont seulement prises en otage par celles-ci. Et il va falloir penser à se défendre. Personne ne nous protège. Si l'intelligence artificielle pouvait servir le bien commun plutôt que la soif de quelques-uns, quelques-unes, la technologie du troisième millénaire ferait des merveilles. Mais pour que ça se produise, il faut que nos gouvernements encadrent, légifèrent, mettent au pas les entreprises extractivistes de données personnelles comme ils l'ont fait, ou tentent de le faire, pour d'autres industries. Si eux ne le font pas, qui le fera? Le gouvernement du Québec a parlé de lutte contre la cyberdépendance. Or, on est aujourd'hui, à quelques exceptions près, tous, toutes, plus ou moins dans un rapport de dépendance à la technologie. Ça brise des couples. Ça brise des relations parents-enfants. Ça brise des relations professeurs-élèves. Ça magane les espaces publics comme les espaces intimes. Ce n'est pas un enjeu individuel, comme le suggère l'approche gouvernementale. Ce ne sont pas les individus qu'il faut gérer ou culpabiliser. L'enjeu en est un de société et il va falloir y répondre autrement qu'en prodiguant des petits conseils aux gens sur la façon de combattre leur cyberdépendance. Il va falloir une réponse politique. La population serait prête pour ça. Plusieurs sondages ont été réalisés aux États-Unis et au Canada. Les résultats sont étonnants. La majorité des citoyens et citoyennes croient que les géants du Web nuisent à leur santé. Mais pendant ce temps, le gouvernement de François Legault légalise Uber au détriment des chauffeurs-chauffeuses de taxi, octroie un contrat de 10,5 millions de dollars à Amazon Web Services pour des ressources d'infos nuagiques destinées à l'État, dézone une terre agricole à Beauharnois pour y implanter un centre de données appartenant à Google, et ce, malgré l'objection nette de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Au fédéral, ce n'est pas beaucoup mieux. Je pourrais faire une longue liste, mais vous avez compris. Nos gouvernements ne nous protègent pas. Ils nous jettent plus avant, dans la gueule du loup. En conclusion de son ouvrage, Shoshana Zuboff écrit « Le capitalisme de surveillance est une créature du 21e siècle qui ne peut être domptée que par des droits et des lois du 21e siècle qui attendent encore d'être formalisés. » J'aimerais que nos gouvernements soient quelque part dans ces questions-là, qu'ils y pensent, s'en inquiètent, cherchent, pour notre santé mentale, pour le vivre ensemble, c'est-à-dire pour la santé de notre culture, pour que le Québec, culturellement, sorte de sa dépression. On a besoin de retrouver un socle commun, des lieux publics communs, des rêves et des désirs communs, un projet de société commun. Et pour ça, il faudra vivre dans le même monde et cesser de n'offrir à nos proches et à notre société qu'une présence en pointillé. Il faudra retrouver ce temps, ce soin, cette présence et toutes ces choses sensibles qui vont nous donner envie de regarder à nouveau, tous et toutes ensemble, dans la même direction. C'était « Les géants du Web », un texte de Catherine Dorion, paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine « Nouveaux projets ». Lebel sur Quévillon, nord du Québec, Camp 104. Un texte paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveaux projets. La documentariste Julie Lambert nous fait voir l'univers de plus en plus féminin des campements forestiers du nord du Québec. Juillet 2019, 8 heures. J'ai rendez-vous avec Marcel dans le stationnement du défunt bar Sambuca. On emprunte la 4000, une route de terre qui se resserre plus les kilomètres avancent. En chemin, 4 perdrix, 8 lièvres, 5 camions de bois qui soulèvent des nuages de poussière. Un petit panneau indique finalement Camp 104, un amas de roulottes défraîchies récupérées du projet de l'abbé James. Sur le sol, des dizaines de caissettes d'épinettes en train de se faire arroser. Mais ce qui frappe surtout dans cette clairière, c'est ce ciel, unique aux régions du Nord, que l'on dirait plus grand que partout ailleurs. Marcel m'amène directement à la cuisine, le plus petit pavillon du camp. Un bonjour chaleureux, et l'on me tend un filet. On est soumis aux règles du MAPAC, comme dans les grands restaurants, même si on est au milieu de nulle part, m'indique Roxane, la chef. Je remarque que tout est impeccable. En cuisine, on commence à 3 heures, en pleine nuit. Les journées sont longues, mais l'adrénaline embarque à la fin de l'après-midi lorsque les planteurs, planteuses, reviennent du travail et que le silence se remplit de rires et du bruit des fourchettes qui grattent les assiettes. 75% du travail, c'est du care, des petites attentions. Ils travaillent seuls dans leur tête 10 heures par jour. Le soir, on le voit, ceux qui ont eu une mauvaise journée et qui ont besoin d'une double portion d'espoir. Plus tard, dans le corridor des dortoirs, des bas sèchent dans l'air humide. Les portes entrouvertes donnent sur des chambres bien rangées et sur de joyeux bordels. Les fenêtres sont recouvertes de rideaux en sac poubelle fixés par du duct tape. 3 générations de peinture s'écaillent sur les murs. Les dortoirs sont mixtes. Cette année, on y compte autant de filles que de garçons. On est à la mode depuis bien plus longtemps qu'en ville avec nos toilettes non genrées, plaisante Marcel. Le soleil n'est pas couché que la plupart des planteurs-planteuses le sont déjà. 5h45. Les équipes s'entassent dans les 2 minibus qui les conduiront à leur terrain de jeu pour la journée. Sur les banquettes arrière, on somnole, l'ambiance est calme. Les haut-parleurs font résonner « Le temps est bon » d'Isabelle Pierre. Une heure de route plus tard, on pénètre dans la coupe forestière, une étendue à perte de vue, avec peu d'arbres debout et de géantes cicatrices au sol. Le ciel semble encore plus grand, le silence d'une tonalité différente. Les oiseaux se font discrets, mais le vent, lui, résonne. Devant ce paysage, des larmes coulent sur mes joues. Catherine, la contremaîtresse, donne ses instructions. Chacun, chacune, part ensuite vers le secteur où il ou elle passera les 10 prochaines heures, seul, à répéter la même séquence. Prendre un arbre, pelleter, se pencher, planter, piler, rubaner, se relever, avancer. Et recommencer de 2000 à 3000 fois. À 16h30, ce sont des visages sales et des sourires fatigués qui retournent aux camionnettes. Alors que les journées se racontent, quelque part sur la route 4000, j'entends « J'ai bien hâte de voir ce qu'on va manger pour souper. » Julie Lambert est enseignante au collégial et réalisatrice de documentaires. Après son premier long-métrage « Un film de chasse de filles » 2014, elle retourne s'aventurer en forêt avec « Femmes des bois » 2022, une incursion dans l'univers singulier des campements forestiers du Québec. Bon an, mal an, quelques 10 000 travailleurs-travailleuses s'affairent à y planter plus de 150 millions d'arbres. C'était « Quand 104 », un texte paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet par la documentariste Julie Lambert.
Des opposants, opposantes, progressistes au tramway de Québec? Vraiment? Un texte de Maxime Bilodeau, paru le 30 janvier 2023 dans le magazine Pivot. À Québec, on trouve des anti-tramways dans les arrondissements éloignés du tracé, certes, mais aussi en plein centre-ville, où le niveau d'appui est le plus élevé. Qui sont ces opposants dont les arguments progressistes viennent d'être déboutés en cours? Et qu'avancent-ils exactement? 1, 2, 3, 8, 20 pancartes arborant un large cercle vert sur fond blanc. Il ne faut pas avoir un œil de lynx pour remarquer les nombreuses affiches de « Québec mérite mieux », toutes, ou presque, située sur le boulevard René-Lévesque, une des artères principales du centre-ville de Québec. Depuis des mois, ce groupe citoyen mène une lutte féroce pour empêcher la réalisation d'un projet majeur dans la région, celui du tramway. Lors de sa mise en service en 2028, ce système électrifié sur rail, long de 19,3 km, deviendra la colonne vertébrale d'un réseau de transport en commun moderne, peut-on lire, sur le site web du projet. Pour Québec mérite mieux, il s'agit plutôt d'un projet inadapté pour Québec. La vieille capitale a beau être la seule ville canadienne de plus de 500 000 habitants sans une telle option de mobilité, ses opposants, opposantes, n'en démordent pas. Il existe des alternatives qui, selon eux et elles, n'ont pas été considérées. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, BAP, dans son rapport sur la construction d'un tramway à Québec, a livré des recommandations qui vont en ce sens. Nous pensons qu'il existe d'autres solutions moins invasives qui valent la peine d'être étudiées, comme les autobus électriques, intelligents, affirme Doris Chabot, l'une des porte-paroles du collectif, en entrevue. La membre fondatrice de Québec mérite mieux fait partie des citoyens-citoyennes qui ont lancé, en juillet dernier, des procédures judiciaires contre la Ville de Québec et son méga-projet. Pas de chance! Rien dans le recours des demandeurs ne pose obstacle au projet de tramway, écrit le juge Clément Sanson de la Cour supérieure, devant qui s'est tenu le procès, dans un jugement de 85 pages rendu le 17 janvier dernier. Fait intéressant, les personnes derrière cette poursuite habitent pour la vaste majorité au centre-ville où le tramway doit en principe circuler et donc leur bénéficier de manière directe, apprend-on en consultant les documents déposés à la Cour supérieure. Un sondage diffusé en novembre dernier, et dont les conclusions ont depuis été reconfirmées, rapporte pourtant que c'est dans les quartiers périphériques et non centraux que l'opposition est la plus forte, et ce, de manière significative. Écologique ou non? L'un des arguments phares mis de l'avant par « Québec mérite mieux » a trait à l'environnement. Abattre des milliers d'arbres, dont certains centenaires, n'est pas éco-responsable, tranche le groupe sur son site. En tout, environ 1400 des 7000 arbres situés en bordure du tracé du tramway seront coupés, estime la Ville de Québec. On ne fait pas un projet écologique en créant des gaz à effet de serre, GES, pour 10 à 15 ans. C'est néanmoins ce qu'on s'apprête à faire avec ce projet qui exige de raser des arbres qui font leur job, de capter du CO2, s'indigne Doris Chabot. À titre de propriétaire d'un immeuble riverain du tracé du projet, elle est affectée par le processus d'expropriation déjà entrepris. Une partie de son terrain sera amputée. Vous écoutez des opposants, opposantes progressistes au tramway de Québec, vraiment? Un texte de Maxime Bilodeau, paru le 30 janvier 2023 dans le magazine Pivot.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visiévoix.com. Cette émission rendue possible grâce à Luc Mercure et Claire Dorion à la lecture, Evelyne Séverin à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.